Bienvenue à Sur la ligne, cette émission tout tennis. Cette semaine, on revient sur cette édition de Roland-Garros qui aura couronné Raphaël Nadal pour une majestueuse 14e fois. Amélie Mauresmo y est allée de déclarations qui ont fait jaser, mais est-ce une tempête dans un verre d'eau? Nicolas Richard, bonjour. Hugues Léger, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts?
Ok oui.
C'est parti.
Salut, salut les gars, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Sur la ligne, émission le balado officiel de l'Omnium Banque Nationale. On est sur toutes les plateformes de balado et on est également diffusé au 91.9 Sport. Nicolas Richard de La Presse, comment te portes-tu entre tes quatre murs à Saint-Jérôme?
Ça va très bien les gars, quel week-end de tennis on a eu. Autant ça a été spectaculaire, autant... presque trop prévisible, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est la réflexion que j'ai eue au cours du week-end. Mais en plus, j'ai déjà un petit peu, donc week-end de 100% tennis.
Ben, je suis sûr que tu t'es délecté de ce que tu as vu ce week-end et je suis convaincu que Hugues en a fait tout autant. Comment te portes-tu, Hugues, en direct de l'hôtel Montville où je ne suis pas une semaine de plus puisque je suis dans les Maritimes une heure plus tard que toi, Hugues?
Ça va bien, merci. Content de vous retrouver, les gars. Ouais, un beau week-end, beaucoup, beaucoup d'émotions, tant du côté de la finale des femmes que de la finale des hommes. On a beaucoup de choses à discuter la deuxième semaine de Roland-Garros, mais on a vu avec la victoire de Nadal, un des plus grands sportifs de notre époque. Je vais ouvrir là-dessus là, pour que tous les gens réalisent ce qu'il accomplit en ce moment. Je le mets dans la même catégorie que les Tom Brady, Michael Jordan, Tiger Woods. Je suis vraiment impressionné de ce que Nadal a réussi à faire pour aller chercher son 22e Grand Chelem et son 14e Roland-Garros à 36 ans le week-end dernier.
Ouais, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end-là? T'sais, on ne peut pas gager contre Nadal, mais en même temps, prévoir une victoire de Nadal dans le contexte actuel, c'était assez spectaculaire. Monsieur, regardez, allons-y tout de suite là, dans le vif du sujet puisqu'on y est et que c'est notre mandat de parler de tennis. Nico, t'as pensé quoi, toi, de cette victoire-là de Raphaël Nadal? Est-ce que, même en avançant dans le tournoi, tu continuais de croire en ses chances?
Bon, on n'avait pas le choix de croire en ses chances. On n'avait pas le choix parce que Hugues l'a dit, il est le grand maître de la terre battue. Puis ça fait des mois que je le répète depuis qu'on a commencé le podcast, à vrai dire, que je dis que miser contre Nadal à Roland-Garros, ça se fait pas. C'est comme miser contre Tiger Woods au Masters ou contre Tom Brady au Super Bowl, ça se fait pas. Après, lorsqu'il a eu son break contre Zverev, c'est clair que ça l'a avantagé, même si on aurait aimé un duel plus serré qui se termine, en fait. C'est clair que Nadal était heureux du dénouement de ce match-là parce que ça le reposait. Puis d'autre part, Casper Ruud, de l'autre côté, avait aussi eu un très beau tableau. Donc, je m'attendais à une finale plus corsée, plus serrée. Mais on l'a vu, Nadal était de loin supérieur. D'une part, oui, peut-être que Ruud n'était pas à son meilleur. Certainement que le stress, la pression, on l'a vu en début de match, les jambes très molles, elle avait l'air un petit peu intimidée de jouer devant son idole dans cet immense tournoi. Les balles moins fusantes étaient moins en jambes. Puis au contraire, Nadal se rendait à toutes les balles. Nadal était en jambes, il avait l'air d'être en santé, même si on sait clairement qu'il ne l'était pas. De voir Nadal dominer autant, c'est ce qui m'a le plus impressionné. C'est pas tant le fait qu'il remporte, parce qu'une fois en finale, on savait qu'il allait gagner. C'est une question de savoir en combien de sets. Mais lorsqu'il l'a fait et terminé avec un 6-0, le troisième set à Roland-Garros contre Casper Ruud, qui est maintenant sixième mondial, qui est possiblement son dauphin avec Alcaraz là, sur la terre battue, c'est énorme. Bien sûr, Ruud est excellent, peut-être pas encore au même niveau là, pour discipliner une finale de Grand Chelem, mais Nadal a répondu à nos attentes et ça a été un vrai délice de le voir jouer.
Oui, je suis d'accord avec Nico sur le point que Nadal, comme dans tout Grand Chelem, c'est très long. Hein? Il faut gagner sept matchs et je pense qu'il y a eu quand même un petit break avec la blessure de Zverev. Le match qui était au tie-break du deuxième set lors de la blessure assez grave de Zverev, dont on reparlera un petit peu, était déjà à 3h15. Imaginez le 2-7, 3h15. C'était parti pour un match en 4 ou 5 sets. Et je ne sais pas dans quel état celui qui aurait gagné le match, que ce soit Nadal ou Zverev, serait arrivé à la finale après. Donc, je pense que ça a été une bonne chose que que Nadal gagne en 4-7 contre Djokovic et en 2 par forfait contre Zverev, après le 5-7 qu'il y a eu contre Félix. Donc, il y a eu les circonstances qui ont favorisé Nadal, mais en même temps, il le mérite à 100%. Quelle performance avec un pied amoché, un pied sûrement engourdi par la cortisone pour pas sentir cette douleur-là. On sait qu'il y a eu des injections durant le tournoi. Donc, ça ajoute encore, je dirais, au drame du moment. C'est quand même un moment exceptionnel qu'on vient de vivre avec Nadal encore une fois. On dirait qu'à chaque fois, tout s'aligne pour lui, mais il mérite en même temps parce qu'il a joué du tennis de très haut niveau. Puis juste pour revenir sur Casper Ruud un peu, effectivement, il a été un peu intimidé par l'événement, je pense, au début du premier set. La finale Roland-Garros, le stade plein, son idole. Ça a pris un peu de temps avant qu'il se place. Il y a eu une petite chance au début du deuxième set de peut-être rentrer vraiment dans le match, mais la porte a été refermée très rapidement par Nadal qui a conclu ça brillamment en 3-7.
Mais en même temps, messieurs, c'est vrai qu'il a eu d'une certaine manière des conditions favorables parce que Zverev a abandonné. Mais en même temps, c'était déjà un long match. Ce n'est pas comme si c'était un match qui avait duré 20 minutes. Là. C'était un match qui a duré assez longtemps. Là. Déjà le premier set, je pense que le premier set, c'était 1h30. Là. Fait que ça, c'est l'équivalent de 2 sets. Là.
Oui, ils avaient 3h15 de match quand ils ont arrêté. Mais moi, je dis, s'ils étaient allés en 4-7 ou 5-7, t'imagines, Alex, ça aurait été un match de 5 heures peut-être. Là. Donc ça laisse des traces, même quand tu joues 48 heures après.
C'est vrai, mais en même temps, il a joué à peu près l'équivalent d'un match complet là, de 3-7. Là, ça se peut très bien. Alors, c'est pas comme s'il avait joué 10 minutes. Et quand on regarde, tu sais, la semaine passée, puis même il y a 2 semaines, quand on parlait du tableau, on se disait « Oh, le haut du tableau, il est rempli. C'est incroyable comment c'est complexe. » Et il n'a pas eu nécessairement facile. T'sais, Félix Auger-Aliassime, on l'a dit, 5-7. Après ça, Novak Djokovic. Moi, Novak Djokovic, c'était celui que j'avais choisi comme champion pour remporter ce tournoi-là. Il jouait très bien. Oui, il a eu un break avec Zverev, mais en même temps, ça compensait parce qu'il était dans une partie de tableau tellement compliquée et ça ajoute à l'exploit. Nico, je sens que tu veux ajouter quelque chose.
Non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'ultimement, le plus grand défi de Nadal à Roland-Garros aurait été Félix Auger-Aliassime.
Mais c'est vrai, celui...
Tu sais, le seul joueur qui aurait pu le vaincre, qui a failli le vaincre, qui lui a donné le plus de fil à retordre, c'est notre Québécois. Et ça, oui, Félix, ça n'a peut-être pas gagné le tournoi, mais ça, c'est un prix de consolation extrêmement intéressant.
Oui, tu fais bien de le souligner parce que, ultimement, celui qui l'aura poussé le plus loin dans ses derniers retranchements, c'est effectivement Félix Auger-Aliassime. Mais c'est une méchante belle nouvelle quand tu regardes que c'était la partie de tableau la plus compliquée. Qu'il a fait ça contre l'éventuel champion, ça, c'est particulièrement impressionnant de la part du Canadien. Mais pour en revenir à Nadal, messieurs, 14 titres à Roland-Garros. Hugues, toi, tu suis le tennis depuis si longtemps.
Oui.
Aurais-tu pu imaginer un tel, comment dire, exploit? 14, ça n'a aucun sens.
Je vous l'ai écrit dans notre thread là, ce week-end sur notre fil d'échange qui est maintenant rendu actif 24 heures sur 24 où on échange des points de vue sur ce qui se passe dans le monde du tennis. Quand Bjorn Borg, bon, encore une fois, je fais état de mon âge, quand Bjorn Borg a gagné son 6e Roland-Garros, je m'étais dit à l'époque, jamais ce record-là de 6 Roland-Garros sera égalé. Nadal est rendu à 14, donc fois 2 plus 2. Incroyable. 22 grands chelems et il prend, je dirais, avec ce chiffre de 22, un ascendant sur Djokovic et sur Federer, sur le nombre de grands chelems dans la course vers qui est le plus grand. On fera pas ça encore une fois au niveau de l'émission d'aujourd'hui, mais c'est quand même fabuleux à 36 ans. Puis juste pour rigoler avec les chiffres un peu, 14 plus 22, donc Roland-Garros 14, Grand Chelem 22 égale 36, qui est l'âge que Rafael Nadal a eu vendredi, c'était son anniversaire. Donc, il n'y a pas de coïncidence. 36.
Alors, voilà, la chronique numérologie de Hugues Léger est faite. Hugues, Nico a dû nous quitter, il ne faisait qu'un court passage avec nous aujourd'hui. Je vais intégrer à la conversation Abraham Santerre qui est avec nous. Salut Abraham!
Salut les gars!
Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Rafael Nadal? Parce que je sais que tu étais aux aguets, tu as regardé du tennis toute la dernière semaine.
Ouais, écoute-moi, depuis l'Australie, là, les deux grands chelems, j'avais une confiance aveugle envers Rafa, là. C'est incroyable. Puis c'était vraiment aveugle parce que moi, en fin de semaine, j'ai complété mes stages d'instructeur à Montréal. J'étais sur le terrain pendant la finale. C'était difficile de rater ça, mais j'avais la confiance aveugle, puis j'ai pas raté mon coup. Nadal a dominé, puis je suis vraiment content, là.
Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu avais une confiance avec toi, tu aurais parié avant que c'était Nadal qui aurait été champion?
Ben, comme j'écoutais beaucoup France TV en France, puis ce qu'il disait, c'est que Nadal, tout le long qu'il va jouer à Roland-Garros, même dans 2, 3 ans, il va être toujours favori. Chaque match qu'il va jouer, c'est lui qui va être le favori, puis je crois ça. Nadal, il a une prestance à Roland-Garros, je trouve, puis sur la terre battue en général, puis il a pas nui à mon opinion les 2 dernières semaines.
Ben, c'est sûr, c'est juste dommage à chaque année, on pense que c'est le dernier. Puis là, d'ailleurs, il n'a rien confirmé pour l'année prochaine. Hein. On lui a demandé, là, est-ce qu'on va te retrouver, est-ce qu'on va te revoir? Et à chaque fois, il a été hyper prudent en répondant. Vous savez, c'est un tournoi super spécial pour moi, le Roland-Garros. Je vais tout faire pour y revenir. Je vais me battre pour revenir. Mais si, en gros, ce qu'il sous-entendait, c'est si le corps tient pas. Ben j'aurais des questions à me poser. Et j'ai écouté la conférence de presse au complet et sur le terrain aussi. Et Abraham, je pense que toi aussi, tu me diras si je me trompe. Je ne pense pas qu'il ait utilisé une fois le mot retraite dans ses
Non.
commentaires. Il faisait à peu près tout pour l'éviter. Mais quand même, c'est un peu ça qu'il sous-entendait, j'ai l'impression, parce que de ce qu'on a compris, c'est ça. Il a joué avec des injections au pied pour endormir la douleur, mais il a dit qu'il allait pas répéter la même chose pour les autres tournois. C'est-à-dire que s'il a besoin de répéter ça, il va avoir des questions à se poser. Donc, de ce qu'on se comprend, bon, il a annoncé qu'il voulait peut-être jouer au Wimbledon, mais il le fera pas aux dépens de son corps. Tu as la même
Exactement.
lecture que moi sur la situation?
Oui,
Ouais,
puis
exactement. Vas-y.
le problème, c'est qu'il n'aura pas le choix. Sa blessure au pied, elle est permanente. Elle ne va pas guérir, là. Donc, ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc, s'il y avait une solution chirurgicale, il l'aurait sûrement déjà pris. Ça fait plusieurs années qu'il traîne ça. Ça s'est juste empiré récemment. Il s'est fait injecter pour Roland-Garros. Donc, je ne m'attends pas à le voir sur dur cet été, parce qu'on sait que le dur est très taxant au niveau des pieds, au niveau des chevilles. Le gazon pardonne un petit peu plus. Par contre, il faut voir comment il récupérera entre Roland-Garros et Wimbledon. C'est 2 semaines. Hein, ça va très, très vite avant qu'il doive revenir. Puis il faut qu'il se prépare sur la surface aussi. Donc, moi, je pense qu'il est très prudent de laisser planer que ça se peut qu'il arrête plus vite qu'on pense, qu'il ne pourra pas continuer dans cette situation-là. Mais je ne vois pas comment la situation pourrait être renversée. Donc, c'est ce qui me fait dire là, que les jours sont peut-être comptés là, pour le plaisir qu'on a à voir Rafael Nadal jouer au tennis.
Et c'est phénoménal ce qu'il a réussi à faire parce que si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'il remporte les 2 premiers Grand Chelem de la saison.
Je pense que oui.
En fin de carrière comme ça, alors qu'il ne sent pas son pied, c'est complètement fou. Et je vais ajouter sur une chose, là. Le fait d'endormir son pied, ça endort la douleur, mais ça doit endormir les sensations au sol aussi. Fait que ça doit être assez bizarre de jouer avec un pied que tu ne sens pas. Je ne sais pas, les gars, vous jouez plus au tennis que moi, là. Si tu n'as pas tes repères ou si tu n'as pas de sensations au niveau du pied, ça doit changer la game, Hugues.
C'est certain, c'est certain. Tu dois être en contact avec tout ton corps quand tu joues au tennis, au niveau de tes appuis, à plein niveau. Donc, mais encore une fois, ces compétiteurs-là, là, c'est un autre niveau quand même de ce qu'ils peuvent endurer comme douleur pour pouvoir performer au moment où ils le veulent. Je me souviens de Boris Becker à la finale de Wimbledon en 86 qui avait gagné. Son pied avait plus de peau. OK, il avait tellement souffert là dans ses pumas de l'époque, parce que je me souviens qu'il était son commanditaire. Ses pieds avaient plus de peau, donc il jouait à vif carrément. Fait qu'imaginez la douleur que monsieur tout le monde pourrait supporter, tout le monde arrêterait. Mais ces joueurs-là sont prêts à jouer avec un niveau de douleur qui est vraiment élevé. Pour qu'ils arrêtent, il faut vraiment que ça soit comment dire taxant clairement au niveau de leur mouvement, au niveau de leur rapidité. Mais la douleur, ils peuvent la soutenir. Et on sait que Nadal, ça fait plusieurs années qu'il vit avec ça. Mais effectivement, d'avoir le pied engourdi, et j'ai de la difficulté à voir ça veut dire quoi exactement. Si c'est de la cortisone, tu sens tes membres quand même. T'es pas gelé, là. Donc, je serais curieux de voir comment. Mais évidemment, tu sens pas les mêmes détails là, que tu pourrais ressentir en situation normale.
Abraham, tu voulais acheter quelque chose sur une potentielle retraite de Rafael Nadal?
Ouais, ben je regarde ça, puis je regardais beaucoup Twitter en fin de semaine, et il y a eu des rumeurs, là, des même fake news, qui disaient que Rafael Nadal allait tenir une deuxième conférence de presse pour annoncer peut-être sa retraite et tout, mais finalement ça a été dénoncé, là, c'est pas du tout vrai, mais c'est Twitter et tout le monde des médias s'est emparé de ça, et des titres comme « Dernier match de Rafael Nadal » avec ses conférences de presse qui a dit que ça pourrait être sa dernière année sur la terre battue parisienne et tout. C'était vraiment spécial parce que la foule aussi se disait, oh, c'est peut-être la dernière fois qu'on le voit, avec Twitter aussi qui disait, oh, il y aura une autre conférence de presse, on a parlé à telle personne, mais finalement, c'est pas vrai. Ça crée une ambiance unique, je trouve.
Oui, tout à fait. Je vais ajouter peut-être un point sur ça. Pardon. Durant toute la quinzaine, on a senti une communion entre la foule et Nadal. Donc, il y avait vraiment ce sentiment. Bon, c'est le roi de Roland-Garros, évidemment, mais il y avait cette espèce d'affection qui lui était aussi témoignée durant tout le tournoi parce que on sait que c'est la fin qui s'approche là. Donc, ça a ajouté encore une fois au fait que ces matchs-là étaient vraiment spéciaux, notamment contre Djokovic, contre Félix aussi, même si les gens aimaient bien Félix, c'était moins évident, mais durant la finale aussi. Donc, il y a eu un grand déversement d'émotions et d'amour pour Nadal qui était 100% mérité parce que on craint bien que ça achève là.
Ben, en même temps, c'est normal que les gens commencent à se poser des questions puis s'enflamment d'une certaine manière parce que bon, ça se pourrait que ce qu'on ait vu pour la dernière fois Rafael Nadal. Je ne pense pas que ce soit le cas et je ne pense pas que ce soit sa volonté non plus. Parce que hier, on lui posait la question en conférence de presse, à savoir, bon, est-ce que le fait de remporter le 22e Grand Chelem puis le titre de plus grand joueur de l'histoire, c'est une motivation qui te pousse à te continuer? Et il a répondu une réponse, à mon avis, assez incroyable. Il a répondu, vous savez quoi, pour moi, ça n'a rien à voir, c'est vraiment pas important d'être considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Il dit, j'aime ce que je fais, j'aime jouer au tennis et je veux continuer parce que j'aime mon travail. Je suis un privilégié de la vie de pouvoir jouer du tennis à ce niveau-là et j'ai envie de continuer à le faire. Alors, je pense qu'il est encore passionné. Ouais, qu'est-ce que tu allais dire?
Ben, exactement, tu mets le doigt dessus, Alex. Je pense que la passion y est pour beaucoup. Il a envie d'être là parce que il tripe encore, il s'amuse, il performe, mais le mot-clé, c'est passion. C'est un passionné du jeu et il le fait pas pour l'argent, pas pour les titres, peut-être qu'évidemment, au niveau de marquer l'histoire, c'est intéressant aussi, mais je pense qu'il a envie de le faire aussi longtemps qu'il pourra le faire à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'il s'accroche encore.
Ben, exact. Fait que je veux dire, faut pas exclure la possibilité qu'on l'aurait vu pour une dernière fois sur un terrain de tennis. Ça se pourrait que lui, s'il discute avec ses médecins, dise, ben, finalement, je vais passer à autre chose. C'est terminé parce que je peux pas continuer dans ces conditions-là. Maintenant, moi, je pense qu'on va le revoir. Et puis, si c'est pas le cas, si c'était son dernier match, ben, il se sera retiré au sommet, au tournoi qu'il aura dominé plus que personne dans le tennis, dans le fond, un tournoi qu'il aura dominé plus que personne dans n'importe quel monde du sport, là. C'est incroyable ce qu'il a réussi à faire. 14 titres sur le même tournoi dans un sport de haut niveau comme ça. En tout cas, il pourra dire plus que mission accomplie, ça, c'est absolument certain. Abraham, tu penses qu'on l'a vu pour une dernière fois, toi?
J'ai de la misère à croire ça, mais peut-être à ce niveau-là, oui. Mais en même temps, chaque fois que Nadal va jouer à Roland-Garros, moi je vais le mettre favori. Mais je peux pas aller contre ça. Mais en tout cas, pour utiliser la une de l'équipe ce matin, c'est pour l'éternité. L'éternité.
Ouais,
Beau
ça,
titre,
ça
beau
et,
titre.
et sa finale n'a pas été la plus rude.
Exactement.
Exact.
Je vous donne le droit de l'utiliser, les boys. Quelque chose à ajouter sur la victoire spectaculaire de Rafael Nadal. J'ai l'impression qu'on a tout dit.
Ben, pour
On reste
conclure,
impressionné.
moi, je pose une question ouverte, là. Est-ce que son début d'année en Grand Chelem lui donne l'idée qu'il peut-être qu'il pourrait compléter un Grand Chelem calendrier? Ça, c'est la seule question que je laisserais pour terminer sur ce segment-là. Un très, très beau Roland-Garros. Il l'a bien mérité dans le côté du tableau le plus difficile, on l'a dit à plusieurs reprises. Zverev a sorti Alcaraz, donc il a rencontré le meilleur du tableau quand il a rencontré Zverev en demi-finale. Il a réussi à le battre et il roule de plus facilement en finale. Mais il peut faire un grand chelem calendrier. Puis sa façon de jouer en Australie, quand il a battu Medvedev, qui est le meilleur joueur sur dur, je crois, en ce moment, en tout cas à peu près égal avec Djokovic ou un peu au-dessus. Il peut rêver de réussir un grand chelem calendrier encore. Si au niveau physique, il peut tenir le coup. Je terminerai là-dessus.
Ben, je pense que c'est tout à fait légitime de penser ça. Même, je te dirais plus que ça, moi, c'est la même idée m'a passé par la tête, Hugues, parce que je me suis dit, bon, là, il veut jouer Wimbledon. Il a annoncé qu'il n'allait pas jouer entre les deux ou à peu près. Là. En tout cas, ce serait surprenant de le voir entre les deux. Et s'il va jouer à Wimbledon, c'est pour voir s'il peut peut-être aller gagner ce titre-là. Et là, s'il gagne Wimbledon, là, d'après moi, on va le voir jusqu'au US Open. Il va terminer la saison.
Un petit point technique. Avez-vous vu comment il a amélioré ses volées? Il monte au bon moment, il monte sur des très beaux coups d'approche. Sa volée est mordante, décisive. Il fait des volées croisées courtes tout le temps pour finir le point. Ça marche très bien. Fait que je pense que son jeu aussi a évolué au fil des années pour le rendre encore plus compétitif, même à 36 ans à Wimbledon. On sait qu'au départ, c'était pas sa surface naturelle, je dirais comme ça, là, il y a une dizaine d'années. Mais son jeu a beaucoup progressé. C'est un all-court player maintenant, Nadal. Donc, je pense qu'il pourrait bien... Il y a le jeu pour aller jusqu'au bout à Wimbledon aussi, maintenant, encore plus que jamais.
Ça, c'est sûr. Sauf que la compétition va être féroce. Novak, il n'est pas hors du tableau, si on veut. Là, Federer, ce qui va être là?
Je pense pas.
Enfin, on verra. Serena, est-ce qu'elle va être là aussi? Ça, on en reparlera, là. Mais non, moi non plus, je ne m'attends pas, même si elle annonçait un retour au jeu. Là. En tout cas, je vais être surpris. Là, la question qu'il faut poser, en tout cas, on y reviendra peut-être à Wimbledon. Là. Mais là, est-ce que c'est un vrai slam si c'est un faux tournoi de Wimbledon?
Moi, je dirais que oui. Même Rafael Nadal l'a dit, le tournoi que je vise en ce moment, c'est Wimbledon, puis pas les autres. Même s'il n'y a pas de points, ces choses-là, c'est quand même le tournoi prestigieux. Donc, je vais quand même pour un slam calendar, même s'il n'y a pas de points.
Non, exact. En tout cas, exploit phénoménal de Rafael Nadal. Est-ce qu'on va le revoir? Est-ce qu'on ne le reverra pas? La question se pose. Moi, je pense qu'on va le revoir. On verra ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Souhaitons-le pour le monde du tennis, qu'on puisse peut-être le voir au moins jusqu'à la fin de l'année, puis lui donner... le voir peut-être même au championnat de l'ATP à la fin de l'année, puis performer dignement à Wimbledon, dignement à Montréal et dignement au US Open. C'est un des plus grands champions également au Canada. Là, alors, ce serait le fun de voir un dernier tour de piste au Canada. Passons du côté des femmes, parce que si c'est exceptionnel ce qui s'est passé du côté des hommes, c'est tout aussi exceptionnel du côté des femmes, à la seule différence qu'on s'y attendait. S'il y a une fille qu'on voyait championne, c'est bien Swiatek. Je pense qu'on était tous unanimes au début du tournoi. Mais il reste que la séquence sur laquelle elle est présentement de victoire, elle est non seulement historique, mais c'est complètement fou ce qu'elle réussit à faire, Hugues, depuis quelques mois. Là, depuis le départ de Ashleigh Barty.
Ouais, on va parler de Iga Świątek évidemment et de Coco Gauff parce que je pense qu'il faut parler du parcours aussi de Coco Gauff à 18 ans, jeune graduée du high school durant Roland Garros d'ailleurs. Mais oui, cette série là qui est rendue à 35 victoires consécutives de Iga Świątek, elle a rattrapé les séries de victoires de Venus et Serena Williams. C'est tout à fait, elle marque l'histoire elle aussi à sa façon. Puis que personne vienne dire qu'elle est pas numéro un légitime ou que le peloton féminin est moins bon en ce moment. Oui, on a perdu une championne énorme en Ashleigh Barty, mais pour aligner 35 victoires, quand même, il faut le faire. Elle a échappé un seul set durant tout le tournoi. Iga Świątek, grande championne de Roland-Garros. On est là pour l'avoir pour le reste de l'année. Et pourquoi pas d'autres victoires en Grand Chelem pour la suite de l'année. Le seul point que j'irais sur Iga Świątek, le tennis féminin, et on parlera de peut-être de Amélie Mauresmo un petit peu plus tard, qui a fait une sortie assez conspuée, là, assez solidement quand elle disait que le tennis féminin avait moins d'attrait que le tennis masculin. Mais le tennis féminin, globalement, en ce moment, manque un peu d'attrait grand public, de star power. Iga Świątek, super fille, intelligente, articulée. Tous ses commentaires d'après-match sont toujours vraiment, vraiment intéressants. Mais il n'y a pas une championne à la Serena, Venus.
Pas encore.
pas encore, exactement. Ou même Naomi Osaka qui avait un rayonnement très large. Et ça, ça vient affecter un petit peu le tennis. Donc, je mets le côté média, attrait de l'audience. Il y a beaucoup de gens qui en parlent aujourd'hui, qui suivent le sport et le tennis, qui vont avoir de la difficulté à prononcer le nom de la première joueuse mondiale. Et ça veut dire quelque chose quand même.
Ouais, ben même nous, c'est pas clair encore. C'est Swiatek, Swiatek, c'est pas clair encore là. On va y revenir sur Amélie Mauresmo parce que c'est vraiment un dossier intéressant, je pense. Puis il y a beaucoup de choses à dire de ce côté-là. Et on va y revenir. Pour en revenir sur Swiatek, messieurs, 35 victoires de suite. Prochain objectif, Hugues, est-ce que ce sont les 74 victoires de Martina Navratilova? Est-ce qu'on va revoir ça dans le tennis moderne, tu penses?
Moi, j'ai appris à ne plus dire jamais, que ce soit pour les records de Wayne Gretzky ou de Tiger Woods ou de Federer ou de Venus Serena ou Martina, tout est possible. Je vous parlais de Bjorn Borg plus tôt, 6 Roland-Garros, je me disais, ben non, personne ne va jamais rattraper ça. Ben non, Nadal est rendu à 14, donc je dirais jamais, mais encore une fois, il y a toute une marche à gravir pour réussir à rattraper cette séquence de Martina Navratilova, qui aussi dominait outrageusement sur son époque, mais n'oubliez pas qu'elle a redéfini le côté physique du tennis féminin. Quand elle est revenue après une pause, elle a fait un reset complet. Martina, c'était au niveau physique un autre niveau que toutes les joueuses, incluant Chris Evert et les meilleurs qui la suivaient derrière. Martina a amené le power tennis féminin à un autre niveau et aussi avec un jeu de service volley qui était injouable pour la plupart des joueuses de l'époque.
Exact. Et excellente joueuse de double également, Martina Navratilova. C'est une des joueuses les plus complètes de l'histoire. C'est absolument certain. Parlons de Coco Gauff, messieurs, parce que c'est quand même pas banal ce qu'elle a réussi à faire à son âge. Je le dis souvent, Coco Gauff, on a l'impression que ça fait longtemps. Ben, ça fait déjà un petit bout qu'elle est sur le circuit, mais elle vient graduer du secondaire. Elle a elle est encore tout jeune, là, Coco Gauff.
Elle a 18 ans, mon âge.
Ouais. Exact, exact. Abraham, t'aurais pu aller à l'école avec Coco Gauff. D'ailleurs, ben, puisqu'on y est, parlons-en de Coco Gauff. Abraham, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance dans ce tournoi-là?
C'était le tournoi de la confirmation pour elle, là. Ça fait plusieurs années qu'on la voyait. Moi, en 2019, quand je suis allé à New York la voir jouer sur le Louis Armstrong, je la voyais, puis elle avait pas, dans cette année-là, elle avait quoi, 15 ou 16 ans. Puis elle avait l'air d'une bonne joueuse. Je la différenciais pas des autres. Donc, ça allait venir un jour. Dans la dernière année, on a commencé un petit peu à la mettre de côté. On savait qu'elle était bonne, mais elle n'atteignait pas le stade qu'on voulait. Mais là, ça a été le tournoi de la confirmation. Là, elle a atteint la finale en simple. Mais aussi, il faut souligner qu'elle s'est rendue en finale en double avec Jessica Pegula. Donc, c'est une performance hors du commun. Là. Ils se sont inclinés contre la paire française de Caroline Garcia, Kristina Mladenovic, qui est une paire légendaire, que je pourrais dire. Là. Sont excellentes, ces deux filles-là. Donc, je pense que c'est très bien pour Coco. Puis le meilleur est à venir. Là.
Et rappelons que Coco Gauff avait défait au premier tour Rebecca Marino. Alors, on peut remettre en perspective cette défaite-là. Hugues, qu'est-ce que tu voulais ajouter sur Coco Gauff?
Oui, ben, je pense qu'Abraham utilise le bon mot quand il dit confirmation. Parce qu'on l'attendait, tout le monde connaît son talent. Mais là, se rendre en finale de Grand Chelem, Roland-Garros, à 18 ans, effectivement le tournoi de la confirmation. Puis on pense qu'on est prêt pour une victoire maintenant en Grand Chelem, peut-être même cette année. Donc, ça va donner un niveau de confiance. Même elle aussi, ça lui a enlevé un poids sûrement sur ses épaules là, de jeune femme de 18 ans quand même, parce qu'elle est attendue depuis quelques années déjà. Effectivement, on a l'impression qu'elle est là depuis très longtemps. Elle est sur le circuit depuis l'âge de 16 ans. Elle a déjà 2 titres en simple et elle performe en double en plus. Ça qu'on voit aussi que c'est une joueuse extrêmement complète. Mais je pense que là, ça va lui donner un petit coup d'accélérateur pour le reste de l'année. Et moi, je l'ai mis sur des tableaux très loin déjà cette année durant le printemps. Ça ne s'est pas concrétisé vraiment. Mais là, avec cette finale-là, je pense qu'elle est prête là, à vraiment franchir le pas là, vers une position solide au niveau du top 10 très rapidement.
Je pense que peut-être même plus rapidement. Dans le contexte actuel du tennis, à la part du Viatek, elle va peut-être même monter, si on veut, top 5 plus rapidement qu'on peut penser. Mais si on va faire une courte pause au retour, on va revenir sur la dernière performance de Leila Annie Fernandez. Et puis, on va également parler d'Amélie Mauresmo qui a fait beaucoup jaser dans cette première édition en tant que directrice du tournoi. Messieurs, avant qu'on passe à Amélie Mauresmo, je veux qu'on revienne rapidement sur la performance de Leila Annie Fernandez. On avait beaucoup d'espoir quand on s'est parlé la semaine passée dans notre épisode demi-tournoi parce que, bon, justement, elle était dans la même partie de tableau que Coco Gauff. On se disait qu'elle était potentiellement favorite pour aller jusqu'en finale. Finalement, ça s'est arrêté contre, disons-le, l'une des histoires Cendrillon du tournoi. Trevisan, qu'est-ce que vous avez pensé de ça, Hugues? Je commence avec toi.
Ben écoute, moi je pense que Trevisan, c'était un match très prenable pour Leila. Elle a joué sur un pied tout le long du match. On sait maintenant qu'elle a une fracture de stress au pied gauche, qui est son pied d'appui. Hein, elle est gauchère, donc en coup droit, en service, il faut qu'elle s'appuie sur son pied gauche. Donc elle aussi a fait preuve, comme Nadal, de beaucoup de courage là, pour aller jusqu'au bout. Et arracher un set quand même à Trevisan, qui a un peu choqué le deuxième set, on va le dire. Elle a eu une balle de match. C'est pour ça, moi, que Trevisan... Oui, elle a fait un super parcours, mais je pense que Leila à 100% aurait dû gagner ce match-là. Et qui sait, ça n'aurait pas fait une belle compétition à Coco Gauff et elle sera en finale. Nous, la semaine passée, quand on en parlait, on la voyait sûrement, enfin, potentiellement en finale. Là, je ne dirais pas sûrement, mais c'était sûrement quelqu'un qui pouvait s'y rendre. Donc, Leila, c'est un très bon Roland-Garros. C'est un tournoi qui est rassurant pour tout le monde. Parce qu'elle a eu un printemps moyen, on s'entend. Sauf que là, ben, ça met un nouveau doute pour les prochaines semaines et les prochains mois. Là. Espérons qu'elle va bien récupérer et qu'elle va trouver une chaussure qui lui convient bien. Parce que c'est un petit gabarit, Leila. Hein. C'est pas quelqu'un qui met beaucoup de poids sur ses pieds. Donc, c'est quand même dommage là, que si jeune, elle se retrouve déjà avec une fracture de stress. Il faut qu'elle prenne soin de ça. Parce que c'est des trucs qui peuvent rester par la suite. Là. Mais très beau tournoi de Leila. On peut vraiment être fiers du parcours qu'elle a fait.
On a vu son caractère, en tout cas. Ça, c'est certain à Leila Annie Fernandez. Abraham, commentaire sur cette performance-là de Leila Annie Fernandez?
Ben, Leila, encore une fois, elle nous a rassurés, comme Hugues a dit. On est vraiment... Ben, moi, je suis très content de voir ces résultats-là. Puis qu'avec... Tu sais, en pleine forme, on ne sait pas où est-ce qu'elle aurait pu se rendre. Donc, je suis vraiment content qu'elle soit déjà rendue en quart de finale, si je ne me trompe pas, contre Trevisan. Donc, c'est excellent. Et Trevisan, de son côté, elle aussi, excellent résultat. Elle s'était rendue en quart de finale en 2020 en tant que qualifiée. Puis là, elle sera en demi-finale. Et il y a quoi de mieux pour elle? Je pense que c'est très, très bon. Il reste juste à peut-être performer dans d'autres tournois. Mais c'est très bon pour les deux joueurs. Puis Trevisan, si je peux ajouter... là. J'ai pas vu ses matchs, mais Coco Gauff qui a un petit peu parlé à l'arbitre parce que Trevisan, il paraît qu'il a crié beaucoup en frappant la balle. Hein. Donc, elle frappait la balle, puis la balle arrivait du côté de Coco. Et on entendait encore Trevisan crier. Ça a dérangé un petit peu Coco Gauff, mais en tout cas, c'est un petit détail amusant, mais c'est spécial à voir.
Non, mais c'est un bon point, Abraham. Puis on en parlait ce week-end quand on s'est vu au tennis. Trevisan, moi, son sportsmanship, je le mets un peu en question parce que même contre Leila, elle savait que Leila était blessée et elle ne se gênait pas pour célébrer à qui mieux. Quand ton adversaire est blessé, t'en mets pas trop. Tu peux être content de gagner, tu peux manifester quand tu gagnes un point, c'est normal. Mais je trouvais qu'elle allait un petit peu trop loin, un peu dans ses manifestations, dans ses cris vers sa loge, son friends box, où était son coach. Donc, Trevisan, j'en ressors pas un très grand fan, honnêtement, tant pour son attitude du match contre Leila que contre Coco Gauff par la suite.
Ouais, ben, c'est pas la première fois qu'on entend des commentaires de ce genre-là. Moi, je me souviens de certains matchs entre Azarenka et Sharapova qui faisaient pas mal jaser pour les bruits sur le terrain. Que voulez-vous?
Exact.
Mais pour terminer sur Coco Gauff, moi, je la trouve tellement divertissante, cette fille-là. Je trouve qu'elle donne un bon show. Puis si elle peut prendre les rênes du tennis à la Serena Williams, je sais pas qu'elle va avoir une carrière comparable. C'est pas ce que je veux dire. Peut-être, peut-être pas. Mais elle va être bonne pour le tennis, Coco Gauff,
Ouais.
autant de par sa personnalité que
Oui.
par son jeu sur le terrain.
Oui. Très, très, une autre fille intelligente, articulée, touchante. Moi, j'ai aimé les discours autant de Swiatek que de Coco Gauff. C'est vraiment le fun de voir des championnes que les jeunes vont émuler par la suite, qui ont des points de vue, qui ont des positions qui sont bien mesurées, qui se disent, bon, il n'y a pas que le tennis aussi, si jamais je performe pas, je suis une personne, je m'aime comme je suis, puis vous aussi, je vous encourage à ça. Il y a eu plein de messages intéressants qui ont été passés à travers ce tournoi-là. Puis Coco Gauff, à 18 ans, fait vraiment preuve d'une grande maturité, là, je trouve, dans ses commentaires d'après-match. Moi, elle m'a beaucoup touché, en tout cas, dans son commentaire à la remise des trophées.
Ouais, puis elle a quelque chose de super sympathique aussi, proche du monde, je vais dire ça comme ça, très, très groundé, là. Tu sais, elle pourrait s'enfler la tête à 18 ans avec l'exposure qu'elle a, mais elle semble avoir des racines familiales assez importantes, puis c'est pas, en tout cas, elle semble assez terre à terre malgré tout, là, pour le
Oui.
succès qu'elle a à un jeune âge.
Absolument.
Là, messieurs, je veux qu'on parle. On est dans le tennis féminin, on va rester dans le tennis féminin. Parce qu'Amélie Mauresmo a fait des déclarations qui ont fait jaser. Et je vais donner une opinion, là. J'ai l'impression que c'est un peu une tempête dans un verre d'eau, cette histoire-là. Hugues, tu veux-tu résumer la situation d'Amélie Mauresmo, ce qui s'est passé sur les night sessions, ses commentaires sur le tennis féminin versus le tennis masculin?
Ben, il faut pas oublier la séquence des événements. J'en ai un peu parlé dans ma chronique de la valeur du sport de la semaine passée. Il faut pas oublier dans tout ce contexte-là le nouveau contrat télé de Amazon Prime Video pour les matchs en France. Donc, ils partagent le package télé avec France Télévisions, qu'Abraham a beaucoup regardé d'ailleurs durant la quinzaine grâce à son VPN. Donc, le Night Session, c'est le showcase. Ok, c'est le moment important, c'est le match blockbuster de la journée qui est là. Pratiquement tous les matchs en night session ont été des matchs masculins. Je pense qu'il y a eu un match féminin durant toute la quinzaine. Mais n'oubliez pas que le diffuseur drive beaucoup qui va jouer dans ce créneau-là. Avant, c'était les joueurs qui disaient, le numéro un souvent avait préséance. Et moi, j'aime mieux jouer le jour, j'aime mieux jouer le soir. Je pense au US Open notamment, là, où les night sessions existent depuis très longtemps. C'est plus récent à Roland-Garros. Ça fait 2 ans seulement qu'il y a un toit sur le Philippe Châtrier. Mais Mauresmo, évidemment, est très consciente du 60 millions de nouvel argent que Amazon a mis dans le tournoi de Roland-Garros. Et Dieu sait qu'ils en ont besoin. Il y a eu 400 millions qui ont été investis dans la réfection du stade Roland-Garros et de tout le site du tournoi à la Porte d'Auteuil. Donc, il faut qu'ils rentabilisent ça. Ils ont eu un prêt de 40 millions du gouvernement français aussi qu'ils doivent rembourser. C'est bon, ils vont avoir des bonnes conditions. J'ai aucun problème pour eux. Et ils vont faire une très bonne année au niveau revenu pour 2022. Mais cela dit, Mauresmo devait composer avec cette pression-là de satisfaire son nouveau diffuseur qui est Amazon Prime Video pour les Night Sessions. Donc, ça a fait jaser pour le match Nadal-Djokovic, sachant que Nadal aurait préféré jouer le jour, Djokovic le soir. C'est quand même Nadal qui a réussi à gagner le match. Mais dans cette foulée-là, où il y avait beaucoup de matchs d'hommes qui étaient le soir, et que la question lui a été posée, elle lui a dit, mais elle a répondu aux médias, le tennis masculin a plus d'attrait que le tennis féminin. Donc, mais c'était dans un contexte plus large. Donc, c'était dans un contexte de diffusion et tout ça. Mais elle a mal présenter son argument. Faut pas oublier que la finale du US Open de l'an passé entre Raducanu et Leila Fernandez a fait une plus grosse cote d'écoute, plus grosse audience que la finale masculine. Donc ça, elle aurait pu le dire aussi. Tu sais, c'est pas uniforme là. Ça, tout va dépendre du match-up, tout va dépendre du contexte et tout ça. Fait que c'est un petit peu mal sorti, surtout venant d'elle. Donc une femme dit. Comment dire, directrice de tournoi qui a fait beaucoup aussi pour le tennis. Oublions pas qu'elle a été coach de Andy Murray quand il était top 5 quand même, là. Donc, c'est peut-être la seule femme qui coachait à ce niveau-là. Donc, elle a fait beaucoup pour les femmes et les femmes dans le tennis en général. Fait que c'est pour ça, moi aussi, que je pense comme toi, que c'était un peu une tempête, comment dire, dans un verre d'eau parce que le contexte a été mal placé. Donc, moi,
C'est
ça serait
conjoncturel.
mon analyse de la situation, là.
c'est oui. conjoncturel parce que si, supposons que tu as une espèce d'âge d'or avec, disons, le Sharapova, Serena Williams qui jouent une contre l'autre dans leur prime, les deux, c'est sûr qu'elles auraient été sur le night session. Mais comme tu le disais en début d'émission, en ce moment, il y a un manque de firepower, de star power du côté féminin. Puis c'est pas que le tennis féminin n'est pas intéressant, puis c'est pas que les matchs sont pas intéressants. Je pense que n'importe qui est un grand fan de tennis se doit d'apprécier le tennis féminin parce que c'est du tennis de haute qualité. Mais c'est vrai qu'au niveau de la notoriété des vedettes, et c'est souvent ça qui vend, il y a un certain déficit. Il y a Naomi Osaka qui est la joueuse la plus payée, la sportive la plus payée au monde, qui a un grand rayonnement, mais qui ne performe pas pour l'instant et qui est pas, qui joue pas à la hauteur, si on veut, du statut qu'elle pourrait avoir. Elle aurait le potentiel de driver le tennis. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais si on avait eu un Osaka Coco Gauff, par exemple, il y a des bonnes chances que ce match-là aurait été sur un match.
Exactement. Exactement, Alex. Oui.
Ouais, vas-y, Hugues.
Ben, j'allais dire, pour la quinzaine, tout le monde n'en avait que pour Carlos Alcaraz. Là. C'était le buzz du tournoi.
Avec raison.
Avec raison. Je pense que c'est lui qui a joué le plus de night session. Mais c'est drivé justement par le potentiel marketing que Alcaraz avait durant le tournoi à Roland-Garros cette année. Il ne s'est pas rendu jusqu'au bout, mais ce n'est pas grave. Donc, ça a beaucoup drivé sur quel terrain il jouait, dans quel créneau horaire il jouait. Donc, c'est ça qui fait que certaines décisions sont prises par le directeur du tournoi pour satisfaire les partenaires, les commanditaires, les diffuseurs. Tout ça est dans la balance. Là. Il n'y a pas que le côté sportif. Donc, Alcaraz a drivé beaucoup des décisions qu'Amélie Mauresmo a dû prendre au niveau de qui jouait où durant Roland-Garros 2022. Et c'est ça aussi qu'il faut mettre dans la balance quand elle fait un commentaire comme le tennis féminin est moins attrayant que le tennis masculin.
Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces mots-là ont été tirés hors de leur contexte, et c'est ce qu'elle a expliqué. Elle s'est excusée après, mais en expliquant que ce qui a été interprété, ça a été pris hors contexte. Je pense qu'elle voulait dire que c'est les matchs qui étaient plus ou moins intéressants. Elle ne parlait pas du tennis en général.
Exactement, exactement.
Je veux dire, ça n'empêche pas qu'un match peut être intéressant ou pas. Puis tu peux avoir un Nadal Djokovic qui va être un match tout à fait plate. Ça se pourrait que ça arrive.
Si je peux ajouter, tu sais, les night sessions au US Open, souvent c'est deux matchs, si je ne me trompe pas. Puis normalement, c'est un match d'homme, un match de femme.
Exact.
On fait ça va. Puis les conditions ne changent pas. À Roland-Garros, la night session commençait à 21h. Il faisait déjà noir. Les conditions de la terre changeaient à ce moment-là. Je me connais pas en terre battue, mais c'était différent de ce que j'ai entendu.
Oui, plus lourd. Donc, oui.
C'est ça, exactement. Donc, puis du côté des filles, c'est ça qui était drôle. Liga Świątek, je pense qu'elle a été questionnée là-dessus. Elle a dit « Ouais, je suis pas mal déçu de Mauresmo, ses commentaires et tout. » Mais moi, je suis pas déçu. Ça me dérange pas de pas jouer le soir. Là. J'aime bien mieux jouer de jour, un peu comme Nadal. Enfin, finalement, c'est un peu une situation « sorry, not sorry ». Finalement, c'est pas grave, là, je suis bien contente. Mais c'est
au niveau politique. Abraham, c'est un excellent point. Je rajoute là-dessus. Effectivement, Roland-Garros doit repenser ses night sessions pour l'an prochain pour éventuellement les commencer un petit peu plus tôt et faire comme au US Open, avoir un match féminin, un match masculin. Ça va régler tout le problème s'ils font ça. Donc, je ne comprenais pas pourquoi ils commençaient si tard les night sessions. Encore une fois, je présume qu'Amazon Prime a eu un rôle à jouer là-dedans. Parce que la diffusion à 21h la rendait plus digeste du côté nord-américain. Donc, le gros marché américain, le marché canadien, on avait un match là, blockbuster qu'on pouvait suivre en revenant du bureau, en gros, si ça s'étirait un peu, là, tu sais, vers 3, 4, 5 heures.
Voilà. Les matchs de soccer commencent tous à 21h. C'est un peu comme notre 19h au Canada. Là.
Exactement, exactement. Fait que je pense que tout ça était dans la balance. Il faut que les gens comprennent ça. Là.
Non, exact. Alors, je pense que les trois, on a interprété cette situation-là de la même manière. Hugues, est-ce qu'overall, t'es satisfait, là, même si t'es pas dans le secret des dieux, de comment ça s'est passé avec Amélie Mauresmo?
Écoute, j'ai pas eu vent de d'autres décisions controversées. Là, je sais que Zverev qui s'était plaint aussi là de l'horaire dans la première semaine, je crois. Mais somme toute, c'est une édition Roland-Garros réussie selon moi. Je pense que les foules ont eu l'air excellentes. On verra le bilan final là, dans les prochains jours. Peut-être qu'on pourra en faire un petit point la semaine prochaine. Les revenus attendus étaient de 300 millions. Donc le forecast pour cette année, revenus de billetterie. Revenus de commandite et revenus de diffusion. Les night sessions ont représenté à eux seuls 20% des ventes de billets. c'est énorme, hein, oublié, 20 %, OK, c'est quand même au niveau du nombre de sessions, c'est quand même hyper intéressant. Et ils ont vendu beaucoup de loges corporatives très payantes avec avec food and bev, repas et tout ça. Donc, je pense que Roland-Garros, d'un point de vue commercial et d'un point de vue spectacle, c'est une grande réussite. Et c'est ce qu'on retient ultimement, là, que Mauresmo a fait cette sortie-là. OK, elle s'est excusée après. Mais globalement, c'est une édition, une belle édition de Roland-Garros avec des très beaux, très grands champions, puis une réussite commerciale aussi. Donc, je pense qu'elle a bien passé le test à Amélie Mauresmo, à moins qu'il y ait d'autres choses qui sortent. Mais moi, je pense que c'est une très belle édition qu'on a vue cette année et qu'elle a bien gérée. Aussi globalement.
En tout cas, elle ne pouvait pas avoir un meilleur scénario pour les champions avec Rafael Nadal comme légende champion et Iga Swiatek, celle qui domine le tennis présentement. Messieurs, on va faire une courte pause. Au retour, c'est la tradition. On va regarder ce qui s'en vient pour la semaine à venir. En général, le mandat de Hugues de terminer l'épisode avec ce qui s'en vient au courant de la semaine. On va le faire à deux cette semaine avec Abraham et Hugues, si ça ne dérange pas. Abraham, qu'est-ce qu'on va surveiller la semaine prochaine? Je commence avec toi.
Premièrement, on a Félix Auger, Aliassime, qui joue aux Pays-Bas. Je vais m'abstenir de prononcer la ville parce que ça a l'air vraiment compliqué à dire. Mais c'est aux Pays-Bas, on ne va pas se tromper. C'est un ATP 250. Il est deuxième tête de série. Là. Il n'y a pas trop d'obstacles sur son chemin. Je vois peut-être Karen Khachanov qui pourrait être un bon opposant. Mais normalement, il devrait peut-être se rendre en finale contre Medvedev.
Ezhurgenbaj, Hugues, c'est comme ça qu'on le prononce?
Ah. Oui, pardon.
Ezhurgenbaj, c'est comme ça qu'on le dit?
Donc, effectivement, c'est un tournoi qui existe depuis des décennies sur gazon, évidemment. Donc, c'est un tournoi qui revient puis que tout le monde, effectivement, a un peu de difficulté à prononcer. Moi, je dis Ertogenbosch, mais je me trompe peut-être. Donc, c'est un classique. Et il y a aussi un autre tournoi à Stuttgart. Donc, ils reviennent à Stuttgart, mais sur un terrain sur gazon. Donc, le Hugo Boss Open qui a aussi lieu cette semaine. Et la semaine prochaine, évidemment, le grand warm-up avant Wimbledon, qui est le tournoi de Queens. Et c'est là qu'on voit qui se positionne de façon favorable pour Wimbledon. Donc, voilà ce qui se passe du côté masculin.
Ben, pour nos joueurs canadiens, là, on a Shapovalov à Stuttgart. Il va jouer contre Oscar Otte au deuxième tour. Ça vient de se faire. Oscar Otte qui a gagné contre Daniel Altmaier. Donc, encore là, Shapovalov qui a un bon tableau, qui pourrait jouer contre Hugo Humbert. Ce serait un bon match, ça, sur gazon. Et aussi croiser Matteo Berrettini en demi-finale. Donc, ce ne sera pas facile pour Chapeau, hein, ce côté-là. Puis aussi, pour continuer, on a Rebecca Marino est en action là, à Nottingham, au WTA 250. On ne sait pas encore contre qui elle va jouer. Là. Elle va jouer contre une qualifiée, je crois. Mais après, elle a affronté Maria Sakkari, la première tête de série, dès le deuxième tour. Donc, on se croise les doigts pour Rebecca, mais on pourrait avoir une belle petite semaine.
Oui. Puis, n'oubliez pas que les femmes sont aussi à Ertogenbosch. Je voulais le prononcer une deuxième fois. Et évidemment, comme disait Abraham, le tournoi de Nottingham du côté féminin. Donc, c'est bien parti pour le gazon, là, qui est une autre expérience télévisuelle aussi. Hein. On passe de la terre battue rouge à un écran vert d'une pureté visuelle extrêmement, extrêmement intéressante à suivre. Là. Donc, profitons de cette courte saison sur gazon qui commence cette semaine.
Ouais, elle est très courte, mais moi, je la trouve tellement belle, la saison sur gazon. J'aime tellement ça, voir la balle rebondir sur ce petit gazon-là. J'ai vraiment... Moi, la saison sur gazon, en fait, c'est pas mal ma saison préférée, je vous dirais. Elle est trop courte. C'est la plus courte de la saison, là, sans aucun doute. Puis, messieurs, juste revenir, est-ce qu'on va voir Federer à Wimbledon?
Je crois pas.
Non.
Abraham?
Non. Tous les signes montrent qu'il ne sera pas là. Non. On n'a aucune nouvelle de ce côté-là, donc je ne pense pas avoir de surprise du nouveau de Roger Federer. Là.
Regarde, soyons pragmatiques. Là. Il a confirmé sur deux tournois fédéraires pour le reste de l'année. Le tournoi de Bâle, qui est son tournoi maison, donc Bâle en Suisse, et la Lever Cup. N'oublie pas que la Lever Cup, il est actionnaire de la Lever Cup aussi. Donc, il a des intérêts financiers là-dedans. Bon, moi, je pense que ces deux sorties de cette année, on les connaît déjà. Il n'y en aura pas d'autres. Ça va être des genres de tournois exhibition, je pense, pour lui, où il va tester un peu où il en est. Mais je ne serais pas surpris même qu'à la fin de la saison, qu'il déclare qu'il ne revient pas l'an prochain. Donc, là, comment revenir encore une fois là, après deux années difficiles? Il repart de très, très loin. Donc, je pense que ce qu'on va voir à la Lever Cup et à Bâle, ça fera office un peu d'une tournée d'adieu. Est-ce qu'il fera un dernier Wimbledon pour faire une sortie à la hauteur du champion qu'il est en 2023? Je le souhaite. Mais est-ce qu'il sera compétitif? Je ne crois plus qu'il le sera, malheureusement.
En même temps, moi, je l'ai dit, puis je l'ai dit pour beaucoup d'autres athlètes, je vais le prendre aussi longtemps qu'il le voudra. Mais en même temps, ces athlètes-là ils veulent pas jouer l'année de trop, veulent pas mal. Tu veux être capable de jouer à un niveau acceptable selon leurs standards.
Exactement. Tu ne fais pas une tournée d'adieu pour le plaisir de le faire. Ce n'est pas dans l'ADN de joueurs comme Nadal, Djokovic ou Federer. Là. Donc, je ne pense pas qu'il va étirer la sauce seulement pour faire une tournée d'adieu. Là.
Exact. Messieurs, est-ce que vous allez vous retrouver sur des terrains de tennis cette semaine? Est-ce que vous avez planifié échanger quelques balles?
Oui, on va aller au Lac Brome, le club qui est sur terre battue. Là. J'ai bien hâte de réessayer ces terrains-là que j'ai joué tout l'été passé et coaché. Donner une petite défaite à Hugues, là, il y en a besoin.
Ouais. Est-ce que tu es capable de battre Hugues?
Ben oui.
Il m'a pris une coupe de 7 la dernière semaine, mais là, je soigne une blessure, moi aussi, à la hanche. Là, fait que moi aussi, je passe en mode cortisone cette semaine. Et j'ai un ITF senior au Mont-Tremblant qui commence mercredi, puis je sais pas trop dans quel état je vais le faire. Là, fait que on va voir comment ça va se passer. Fait qu'on va faire une petite session de préparation avec Abraham demain à Nauton, effectivement.
Je sais pas si tu écoutes des fois le show de Maxime Vanout au 91.9, Hugues, mais il m'a dit qu'il aimait entendre tes résultats de tournoi puis qu'il suivait tes résultats de Ligue Senior. Alors, il écoute podcast puis il attend tes résultats.
Je vais les donner. J'ai mon meilleur classement actuel, mais je pense que je vais le prendre en photo parce que je pense pas que je vais le maintenir longtemps. En ce moment, je suis 9e au Québec dans les 55 et plus et 25e au Canada dans les 55 et plus. Mais je vois pas comment je vais pouvoir tenir ce classement-là cet été. Donc, je vous tiens
au courant. On a un joueur top 10. J'espère que tu joues avec ta casquette sur la ligne.
Oui, tout l'été.
Excellent.
J'espère que les deux vous jouez avec votre casquette sur la ligne. Messieurs, merci infiniment pour ce nouvel épisode de Sur la ligne. En l'absence de Nicolas Richard, Hugues, je vais te laisser l'honneur, le privilège de donner le mot de la fin.
Alors, bon tennis, bonne saison sur gazon, les gars, et bonne saison de tennis sur gazon, et bon début d'été à tout le monde cette semaine. Bon tennis.